au nom de l'espoir enterré, au nom des larmes dans le noir, au nom des plaintes qui font rire, au nom des rires qui font peur, au nom des hommes en prison, au nom des femmes déportées, au nom de tous nos camarades, martyrisés et massacrés pour n'avoir pas accepté l'ombre. Il nous faut drainer la colère et faire se lever le fer pour préserver l'image haute des innocents partout traqués et qui partout vont triompher.
حي على السلاح
حي على السلاح حي على السلاح
في النار والبارود أيدينا ترد الأجنبي وتطهر الأرض التي في ظلها نما أبي في النار والبارود أيدينا ترد الأجنبي وتطهر الأرض التي في ظلها نما أبي ويملأ الإسراف والصرف ربوع المغرب
حي على الكفاح 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 في أرض الكفاح المؤمنة
Bonjour, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce, oh là, on démarre mal avec des sifflements, de ce lundi 5 janvier 2015, avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex et j'espère Michel bientôt avec nous. Vous l'avez noté, c'est un indicatif un peu original. En fait, il ne se reproduira pas. C'est un indicatif qui a été constitué par mes soins pour rendre hommage à René Vautier, disparu hier matin. René Vautier, ça dit des choses aux militants, puisque cet homme est un lutteur anticolonialiste depuis toujours. Alors, brève biographie, mais important hommage, je crois, 87 ans, il vient de décéder. Il était né en 29. Il a 15 ans, il était déjà résistant pendant la guerre 39-44. Et puis, dès les années, il s'est lancé dans le cinéma, c'était sa passion. Dès 1950, il avait fait un film qui s'appelait « Afrique 50 ans », dont il avait détourné le subventionnement, on va dire, pour faire un film pour dénoncer les conditions faites aux Africains. Du coup, il s'est retrouvé en prison pour 2 ans, jusqu'en 52. Et son film a connu 40 ans de censure. Ça l'a pas découragé. Il y a eu pas mal de péripéties. Et le film le plus célèbre qu'il a fait, c'est Avoir 20 ans dans les Aurès. Bon, là aussi censuré, qui est paru en 72. René Vautier a été un militant anticolonialiste toute sa vie. Pendant la guerre, en 56, il était du côté du FLN et de la LN et il filmait en Algérie les luttes de l'émancipation. Il sortit à ce moment-là, en 58, un film « Algérie en flammes » qui a aussi été, bien sûr, interdit. En 72, il demandait le visa d'exploitation pour le film « Octobre à Paris » qui a aussi été interdit. Devant le refus, il s'est mis en grève de la faim en janvier 73. Enfin, vous voyez, cet homme, toute sa vie, donc, a œuvré, et puis jusqu'à ses dernières années, mais je ne veux pas passer tout le détail de sa vie. Le film dont vous avez entendu un extrait de la bande-son, c'était « Peuple en marche », 1963. Voilà, eh bien, Michel est arrivé parmi nous. On va donc pouvoir aborder l'actualité internationale, cette fois, au-delà de cet événement mémoriel. On en aura d'autres, d'ailleurs, à évoquer. Au cours de cette émission. Actualité internationale, tu as un sujet sur lequel tu penses qu'il faut ouvrir les infos de ce soir.
Ouvrir, hein.
Ouais, le premier sujet du Canu Info, le premier de l'année.
J'en ai pas particulier, on va dire aller à la Libye.
Ouais.
Histoire de dire que notre ministre de la Défense, Le Drian, vient de faire un tour dans les pays du Sahel en vue de rassembler une large coalition en vue d'une intervention en Libye. Alors quand on parle de rassembler une large coalition, c'est pas tant qu'il a besoin des armées tchadiennes, nigériennes ou maliennes pour arriver à ses fins, mais... ce qu'il entend déjà, c'est avoir une forme d'aval donc des dirigeants des pays de la région avant de passer par les Nations Unies pour avoir un mandat pour intervenir en Libye. Donc de toute évidence, cette approche, hein, elle n'est pas uniquement française, hein, elle serait occidentale, mais une fois de plus, le président de 2011... était très mal passé. Les Russes ont eu l'impression de s'être fait avoir, hein, puisqu'ils avaient donné finalement leur aval à la première intervention. Mais il y a eu un changement de régime par la force. Kadhafi avait été exécuté, hein, pour dire les choses comme elles sont. Et depuis, le pays est dans le chaos. Donc aujourd'hui, officiellement, la France va intervenir pour couper la route des djihadistes qui prospèrent de la Mauritanie jusqu'en Libye. Hein.
Oui, on ne voit pas bien comment ça va se passer, parce que pour le moment, il y a deux gouvernements rivaux qui revendiquent l'autorité dans le pays. L'ONU, qui a voulu s'en mêler en essayant d'organiser des pourparlers de paix, a dû les annuler aujourd'hui même. Donc 3 ans après, on n'a pas avancé d'un pouce, et c'est même pire.
Tout à fait. On n'a pas du tout avancé, et c'est là où effectivement la situation est cocasse. Officiellement, hein, la position française, c'est pas celle effectivement de régler le contentieux entre ces deux gouvernements parallèles au nord du pays. Officiellement, la France surtout entend sécuriser le sud de la Libye, donc la région du Fezzan, frontalière avec le Niger, le Tchad, qui est pour elle donc une zone de non-droit total, depuis laquelle arrivent les djihadistes et les armes au Nord Mali, région, enfin un pays qu'il a du mal donc à sécuriser. Mais de fait, hein, tu l'as dit, on a très bien vu que une première résolution en 2011 qui donnait donc pouvoir uniquement à la coalition d'empêcher donc les troupes de Kadhafi ou les avions de Kadhafi de combattre donc la résistance, s'est transformée donc par l'anéantissement, hein, de l'armée du régime libyen. Donc aujourd'hui donc on voit bien la difficulté qu'ont les Occidentaux, hein, à sous couvert, hein, de mener de nouveau une forme de, on va dire, de croisade, de nous faire croire que la mission principale, c'est de lutter contre le djihadisme, hein, international qui sévit surtout dans le sud du pays. Mais de fait, ce qu'ils entendent, c'est surtout sécuriser à leur profit, donc la Libye. Et bien sûr, ici, un des deux gouvernements qui veulent reconnaître, c'est celui qu'ils sont en train de mettre en place. Car il ne faut pas l'oublier que si il y a une sorte de mal-donne constitutionnelle, il y a une chose qui est évidente, c'est que les Américains, déjà, via les Égyptiens, l'armée égyptienne, œuvrent donc de manière très intense en Libye.
Robert, as-tu, toi, un sujet pour ouvrir cette information de l'année ?
Je parlerai de la situation coloniale qui perdure en Cisjordanie. Ce que publiquement les médias, et d'ailleurs même les médias qui sont favorables aux Palestiniens, continuent d'appeler le conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est le refus par un colonisateur d'exécuter les recommandations et les décisions prises par la communauté dite internationale, l'ONU, et qui en plus s'enferme dans un monde à part qui vise à créer une hégémonie israélienne sur toute la région, avec la couverture comme avant-garde, avec la couverture américaine, états-unienne. Et ça me paraît être intéressant, et peut-être avec un certain optimisme d'en parler en ce début d'année, tout simplement parce que on a observé, non pas un déblocage majeur, mais après par exemple, il y a eu d'abord le refus du Conseil de sécurité une nouvelle fois de reconnaître l'État palestinien, ce sur quoi les Palestiniens qui avaient effectivement quand on parle des Palestiniens, il faut effectivement, il y a les deux entités. Alors, on parle surtout du gouvernement qui est celui de la Cisjordanie occupée, qui est reconnu internationalement. On parle peu ou pas, ou on évite de parler de la bande de Gaza, bien que le Hamas a été retiré des États terroristes comme tel, ce qui effectivement est un progrès. On en a peu parlé, mais les Américains ont décidé de ne plus considérer le Hamas comme un État, enfin un gouvernement d'État terroriste. Et depuis donc, alors là c'est tout à fait nouveau puisque ça couvre même le début de cette année 2015, c'est la prolongation de l'offensive palestinienne par cette demande d'intégrer comme État le tribunal pénal international, on peut l'appeler comme ça d'ailleurs, auquel ni Israël ni les Américains n'adhèrent. Ceci entraîne immédiatement la riposte de Netanyahou et d'Israël, qui donc a décidé comme ça, bien que ne reconnaissant pas, alors je ne sais pas devant quelle juridiction les Israéliens vont procéder, mais d'ici de donner des noms de terroristes palestiniens ou de la bande de Gaza pour alimenter également un tribunal, on ne sait pas trop lequel. Bon, enfin, bon, tout ça, ça fait partie effectivement de la communication israélienne dont on sait qu'elle est relayée plutôt dix fois plus que ne peut être relayée la communication des Palestiniens. Et puis, côté punition immédiate, on bloque l'argent, qui d'ailleurs, par un grand scandale international, continue l'argent des ventes qui sont opérés par les Palestiniens de Cisjordanie et qui sont contrôlés par Israël. D'ailleurs, non seulement Israël les contrôle, mais souvent affecte les produits à son nom et donc fait une double prise d'intérêt sur les intérêts propres des Palestiniens. Alors il semble que là on est. Alors est-ce que s'agit-il d'un léger lâchage par les Américains qui permettent de tout cela? Bon, on voudrait le croire, mais compte tenu de l'attitude très 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 molle d'Obama, qui des fois donnait, et quand il avait fait son fameux discours, je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'était au Caire, où on avait eu l'impression que vraiment ça allait avancer ce dossier de la souveraineté palestinienne. Et puis finalement, il recule beaucoup, très rapidement, sur les quelques avancées qu'on lui prête. Mais enfin bon, c'est quand même peut-être un espoir qu'on doit non seulement avoir d'un point de vue subjectif, mais qu'on peut peut-être objectivement garder dans le cours des prochaines semaines et des prochains mois.
Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Donc c'est de toute évidence aussi une fuite en avant de Netanyahou qui a quelques mois des élections donc qui sont prévues pour mi-mars, donc joue le côté le plus extrême donc de l'échiquier politique israélien. Donc la riposte à ce que proposait Mahmoud Abbas, donc juste d'intégrer donc le CPI, c'est de retenir donc les droits de douane que Israël illégalement prélève pour le compte de l'autorité palestinienne, et au passage prélève une commission qui va jusqu'à 3%, ce qui est pas rien. Donc on est dans le non-droit le plus total. Mais en plus de ça, donc menace ouvertement donc de faire jouer ses relais, à savoir les lobbies juifs et notamment aux États-Unis, hein, notamment l'AIPAC, pour que celle-ci influe auprès des sénateurs, pour que ceux-ci ne reconduisent pas donc l'aide que perçoit aussi l'autorité palestinienne de la part des États-Unis chaque année. Hein. Alors on le sait aussi la difficulté un peu de cette logique pour Netanyahou, il le sait aussi bien que Mahmoud Abbas. C'est-à-dire que s'il ne donne pas cet argent-là, l'autorité palestinienne ne peut pas fonctionner, les salaires ne seront pas perçus par les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui intéressent les Israéliens, surtout, c'est la police qui maintient l'ordre dans les territoires, bien souvent pour le compte indirectement d'Israël. Donc s'il veut provoquer une intifada de plus, et il ne s'y prendrait pas autrement. Et si les sénateurs américains embrayent donc en ne reconduisant pas l'aide donc à la Palestine, il est clair que le printemps risque d'être très très chaud en Palestine. Et la configuration donc au niveau global ne plaide pas, malgré effectivement la puissance d'Israël en termes d'influence, de communication, ne plaide pas en sa faveur. Israël est de plus en plus isolé, tu fais bien de le rappeler. Ce conflit-là, c'est un conflit avant tout du colonisé au colonisateur, et ceci, ça ne passe plus auprès de l'opinion globale, de la communauté internationale, hors grande puissance occidentale. Donc, à plus ou moins brève échéance, donc Israël va droit dans le mur. Donc, sa volonté aussi de vouloir faire d'Israël le pays donc exclusif du peuple juif. Hein. Là aussi, c'est un débat qui a cours actuellement en Israël, qui est très très fort. Va mener irrémédiablement donc les Israéliens dans une politique d'échec. Alors qu'est-ce qui va en sortir, hein? C'est pas forcément des choses joyeuses, mais il est clair que en l'état, la situation et la position de la diplomatie israélienne est totalement intenable vis-à-vis de son partenaire palestinien.
On va rester un petit peu au Moyen-Orient, ensemble, avec le Liban et cette annonce d'une quasi-fermeture des frontières libanaises aux réfugiés syriens. Il faut dire qu'il y a déjà 1 million de réfugiés syriens au Liban. Ça représente 20% de la population. La France est loin d'avoir ouvert ses frontières pour accueillir des réfugiés dans les mêmes proportions. Hein. Vous imaginez 20% de la population française, 12 millions. Ouais. Alors les Libanais prennent des mesures policières, bien sûr, avec des restrictions financières, de papiers, d'accueil, de familles d'accueil, de choses comme ça, qui rendent quasiment pour des gens qui fuient simplement un pays dans lequel ils sont martyrisés, qui rendent impossible l'accès au Liban. Donc, que va-t-il se passer après ça? Alors, en toile de fond aussi, il y a la crainte pour les Libanais de voir les extrémistes arriver avec les réfugiés, extrémistes islamistes d'un bord et de l'autre, et relancer éventuellement la guerre civile au Liban, qui n'en est jamais vraiment sortie, mais enfin, pour lequel il y a eu quand même une accalmie ces dernières années.
Oui, tu fais bien de préciser aussi, pour le Liban, avant tout, c'est une mesure de sécurité. Hein. Le pays reste très très instable, et l'afflux de ces réfugiés, au sens large, les Libanais le craignent aussi dans une forme de renversement effectivement de poids démographique, et notamment c'est la crainte des chrétiens, mais aussi des musulmans chiites, que de voir donc grossir donc dans ces camps donc un flux de réfugiés qui sont pour la plupart donc sunnites. Et on le voit bien déjà dans le nord hein, du Liban, à Tripoli, les coups de feu sont quasi quotidiens entre les minorités alaouites et la majorité sunnite. Donc il est clair qu'il faut à tout prix circoncire donc la crise de la région pour le gouvernement libanais, donc il s'y emploie. Donc on peut pas non plus leur jeter la pierre en voulant donc limiter l'afflux et en imposant un système de visa. Après tout, tu as aussi raison de le préciser, nous qui sommes les anciens mandataires, nous Français, hein, depuis le traité secret Sykes-Picot pendant la Première Guerre mondiale, donc on avait reçu mandat hein, pour cette région-là. Donc quelque part, il faut pas oublier que le français, c'est aussi surtout au Liban, mais c'est deux pays qui défendaient la francophonie, hein, nous l'oublions pas. Donc on a aussi notre part, si j'ose dire, de morale, d'autant plus que nous avons appelé à un changement de régime, et ne l'oublions pas. Donc nous avons poussé la population syrienne à se débarrasser de Bachar al-Assad. Donc c'est la moindre des choses que de mettre aussi en place un programme donc pour accueillir les réfugiés syriens.
Syrie, oui, le bilan des 12 mois de 2014 serait de l'ordre de 76 000 morts. Donc on doit arriver, bien sûr, à plus de 200 000 depuis le début de la guerre maintenant. En Irak, c'est moins, mais quand même, en 2014, on estime à 15 000 morts le nombre de personnes tuées en Irak, essentiellement par les faits d'armes de l'État islamique, Daesh, quoi, à travers des attentats et des massacres. Donc la région reste vraiment, on peut le dire, à feu et à sang, même si en même temps les Américains continuent de frapper. C'est vendredi, je crois, la nuit de vendredi à samedi, 29 nouvelles frappes pour appuyer donc les troupes irakiennes qui s'opposent à Daesh. Robert.
Autre sujet international. C'est naturellement c'est ce qu'on appelle l'Ukraine, mais en fait derrière l'Ukraine c'est la lutte pour l'hégémonie, c'est la lutte pour savoir si on va avoir une planète, un monde multipolaire ou pas. Et on a bien compris que les États-Unis avec leurs alliés européens ont mené l'offensive sur cette question en utilisant très habilement le soulèvement qui, dans ses premiers temps, était relativement populaire à Kiev, en Ukraine, et puis dont on a très vite compris qu'en fait, ce n'était qu'un mouvement qui très vite allait être manipulé dans le cadre, effectivement, de cette bataille planétaire sur l'hégémonisme. Cette bataille va se poursuivre cette année. On a compris que cette offensive américaine, elle est états-unienne, elle est indépendante même du pouvoir politique. C'est une force économique basée sur une idéologie qui maintenant est centenaire, qui est en place, et que ce soit un démocrate ou un républicain au pouvoir, elle suit son cours, cette volonté hégémonique. Alors évidemment, elle est beaucoup plus violente quand ce sont les républicains qui sont au pouvoir que quand ce sont les démocrates, mais en fait, le résultat, pratiquement, est le même. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, on est dans une situation où on voit que la Russie s'oppose à cette mise en place hégémonique à ses frontières. C'est matériellement, objectivement, effectivement, là où le conflit se passe actuellement, cet encerclement de la Russie aujourd'hui, et puis peut-être si ça réussit après dans 10 ans, ce sera, ou peut-être avant même, l'encerclement d'une Chine devenue trop dangereuse face à cet hégémonisme, et puis etc. Bon, c'est une histoire sans fin, ce qu'on appellerait un peu abusivement la guerre froide. Enfin, la guerre froide, c'était tout autre chose. Il y avait une bataille sur le contenu idéologique du modèle de société qu'on voulait bâtir, alors que là, c'est simplement une confrontation intercapitalistique qui se développe et qui va sans doute continuer de se développer. Alors Poutine, je crois que c'est le 15 janvier, a un rendez-vous avec Poroshenko, et puis les Européens, et puis sans doute dans la coulisse les Américains, pour tenter d'empêcher que les choses aillent plus loin, mais on n'en est pas sûr du tout.
C'est tout à fait ça. Et donc l'Ukraine pâtit avant tout du grand jeu entre des intérêts donc géopolitiques d'une hyperpuissance et d'une puissance. L'hyperpuissance, ce sont les États-Unis, avec toute leur zone d'influence, donc tous leurs vassaux, à savoir nous, hein, les premiers, l'Europe, l'Australie, le Japon, voilà, bref, le Canada, on connaît la zone d'influence, de vassalité directe, et des tas d'autres pays qui sont plus ou moins sous domination. Ça a été pendant très longtemps le continent sud-américain qui avait tendance ces 15-20 dernières années à vouloir s'émanciper. C'était aussi beaucoup de pays donc d'Asie du Sud-Est, pour ne citer que l'Indonésie, la Thaïlande et quelques autres, les Philippines. Et dans ce jeu géopolitique où les Américains sont pas non plus des imbéciles, où ils savent qu'ils ont la main, ils voient très bien que les projections donc qui sont faites sur l'échiquier mondial tendent donc à réduire l'influence à tous les niveaux. Et donc ils maintiennent coûte que coûte donc leur zone d'influence. Et pour maintenir sa zone d'influence, déjà, il faut essayer donc de juguler l'autre. L'autre, en l'occurrence, c'est la Russie, qui comptait se refaire sur sa zone d'influence, qui était l'ancien empire russe ou l'URSS. Donc il fallait la couper de l'Ukraine et arrimer l'Ukraine à la zone qu'on contrôle déjà, à savoir l'Europe, et précipiter encore plus donc cette concentration en mettant donc le TAFTA, le grand traité transatlantique, qui ne vise qu'à ça finalement. Il ne vise qu'à maintenir donc pour les États-Unis donc une sorte de d'arrière-marché garanti dans une perspective où on sait bien que la croissance, elle n'est plus chez nous. Hein. La croissance, elle sera demain en Afrique, elle sera en Asie. Les pays qui ont de la perspective, c'est le Brésil, qu'on le veuille ou non, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Quand on regarde à 30 à 40 ans en termes d'échéance, on voit effectivement que on prendra de moins en moins de place au niveau économique sur l'échiquier mondial. Alors, ce qui est tout à fait peinant pour nous Français, hein, si on peut se considérer français, c'est que nous, notre intérêt finalement, c'était consolider d'un point de vue géopolitique le continent eurasiatique, donc favoriser les échanges avec la Russie. Là, mettons de côté les considérations sociales, politiques, morales, mais d'un point de vue purement géopolitique, on n'avait aucune espèce d'intérêt donc à consolider le marché transatlantique. Il aurait fallu, pour diverses raisons, donc consolider ce marché eurasiatique. Or, effectivement, les États-Unis viennent de nous priver, là, durablement, certainement, de cette perspective, parce que ils vont pas en rester là. Hein. Ils vont continuer à isoler la Russie, coûte que coûte.
Voilà, il nous faut parler aussi, on aurait pu le faire déjà tout à l'heure quand on évoquait la Syrie, de ces réfugiés et de ces bateaux. Il y en a eu deux ces quatre derniers jours. Un bateau rempli de réfugiés et que des passeurs, des trafiquants, des malfrats, faut bien les appeler comme ça, donc remplissent, hein, en Turquie, l'autre partie de Chypre, oui, et avec la complicité bien sûr des autorités locales, on peut penser à de la corruption, les gens payant quelques 5 500 euros, et s'ils arrivent par 25, une réduction à 4 500. On embauche sur petite annonce ou autrement un capitaine celui qui a bien voulu être interviewé, à qui on promet 15 000 euros et la possibilité, lui aussi un réfugié, un capitaine de marine, de venir avec sa famille en Italie. Et puis on arrête le bateau à un moment donné, le capitaine se mêle à la foule des réfugiés et ils attendent que les gardes-côtes italiens interviennent pour sauver tout le monde. Là, ça a fait beaucoup donc en quelques jours, puisque 400 d'un côté et 800 de l'autre. Et je crois que pour l'année, j'ai plus le chiffre, hein, c'est quelque chose comme 150 000 réfugiés que les Italiens ont dû accueillir. On peut penser qu'ils trouvent que la mesure est comble. Et là aussi, l'Europe, l'Allemagne, la France et les autres font la sourde oreille, laissant, en termes crus, les Italiens se démerder avec leurs réfugiés. Réfugiés qui, évidemment, n'ont, pour beaucoup d'entre eux, n'ont qu'une chose en tête, c'est de traverser l'Italie et de venir s'installer ou retrouver des compatriotes ou de la famille dans d'autres pays européens. Mais c'est sûr que c'est un drame. Et là, c'est même pas des réfugiés économiques, hein, c'est des réfugiés, des gens qui fuient la guerre, dont on a détruit les maisons, les activités, et qui sont contraints de s'en aller comme ça, sans savoir vers quel avenir. Voilà. Alors que font les différents gouvernements face aux trafiquants qui organisent, parce que ça peut pas quand même se faire dans une clandestinité totale, hein. Ils font pratiquement rien du tout. Ils organisent le business et ils se sauvent avec le pognon qu'ils ont réussi à extorquer à ces réfugiés. Par bonheur, il n'y a pas eu de drame, c'est-à-dire que le bateau n'est pas allé se jeter sur les côtes rocheuses. Les militaires italiens ont été mis élitreillés, comme on dit, sur les bateaux et ont pris le contrôle avec des remorqueurs et tout pour limiter la casse, quoi, au niveau des populations. Mais quand même, le problème reste entier et on peut que s'indigner. Autre sujet, la Grèce, c'est peut-être un sujet un peu plus réjouissant, si j'ose dire, puisque les Grecs ont donc refusé d'élire pour la troisième fois un président de la République. On va sous peu vers des élections législatives dont on nous dit, à vérifier, que ce serait pas étonnant si les gens sont un peu lucides, ils ne reconduiront pas les équipes en place et qu'ils veulent mettre en place le parti d'opposition Syriza qui veut remettre en cause la politique de restriction qui est menée là-bas depuis plusieurs années avec des fonds. Alors la situation est compliquée parce que si Syriza est élu avec Tsipras au mois de janvier, est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment faire ce qu'ils veulent dans la mesure où la Grèce survit avec les fonds de l'Union européenne et que l'Union européenne peut décider à ce moment-là, s'ils estiment des mauvaises raisons, que les critères économiques ne sont pas respectés, peut décider de couper le robinet. Il y a déjà eu 340 milliards d'injectés. Et il n'est pas dit, alors la Grèce sortira-t-elle de l'euro? Les Grecs reprendront-ils leur drachme comme monnaie d'échange? Madame Merkel fait des gesticulations pour faire monter la pression en déclarant que dans ces conditions, si la gauche passe en Grèce, on virera la Grèce de l'Union européenne. D'autres, comme Hollande, sont un peu plus timorés et laissent entendre que sur le papier, théoriquement, c'est pas possible, mais comme je viens de l'expliquer, monétairement, ça peut revenir à ça. Aujourd'hui, donc, une incertitude plane, un espoir pour les Grecs d'avoir un gouvernement qui arrête de faire payer les plus pauvres et de tout faire retomber dessus. On rappellera pas que les armateurs grecs sont les plus riches du monde. On rappellera pas que les curés grecs de diverses obédiences ont toujours échappé à l'impôt et à tout prélèvement. Donc de la richesse en Grèce, il y en a, mais certainement pas chez les petits fonctionnaires.
On ne rappellera jamais assez que ni l'Union européenne ni le FMI prônent donc le contrôle des capitaux. Hein, c'est toujours la sacro-sainte donc liberté donc déplacement des capitaux qui fait que, comme tu évoquais les armateurs, les riches grecs, il y a déjà longtemps que ils ont placé ailleurs donc leurs deniers. Le souci là qui va se poser, on voit bien déjà que à l'échéance du 25 janvier des élections où de toute évidence Syriza est donné gagnant. Alors est-ce que ça gagnant à même de nommer un gouvernement ou est-ce que ce sera un gouvernement de coalition? Ça on le verra bien, mais de toute évidence déjà les pressions donc de l'Union européenne se font hein, sur l'opinion publique grecque de manière donc à les inciter à rester dans le droit chemin. En gros, vous voulez sortir de l'euro, bah, vous allez sortir, non seulement vous allez sortir, mais on va vous faire sortir. Le sous-entendu, il est là surtout. C'est-à-dire que si jamais vous menez une politique qui n'est pas une politique de convergence, hein, prônée par Bruxelles, nous vous ferons sortir donc de l'Union européenne et alors que je pense que la stratégie donc de Tsipras et Syriza dans un premier temps c'est pas la sortie de l'euro hein, qui risque effectivement de provoquer des vagues hein, une crainte chez les épargnants dans la population, une dévaluation drastique donc de la monnaie enfin si on remet en place un drachme, mais c'est plus une renégociation de la dette hein, donc un effacement conséquent de la dette. Et c'est surtout ça que Merkel ne veut pas entendre parler. C'est surtout de ce sujet-là qu'elle ne veut pas. Donc, elle menace d'office, elle dit, bah, sortez, sous-entendu, il est hors de question de parler d'une renégociation de la dette. Et, bon, on verra bien, là aussi, hein, ce sera un rapport de force. Alors, rapport de force, il se fera, par les Grecs. On verra aussi comment les choses peuvent tourner en Espagne, on verra aussi l'état un peu de la gauche européenne et le soutien qu'il faudra apporter donc à Syriza dans ce moment-là, quoi.
Voilà, Robert, on fait une pause musicale ou tu as un autre sujet?
Oui, pause musicale.
Allez, on va la faire en hommage à Louise Michel. Pourquoi Louise Michel? Parce que il y a 110 ans, dans 4 jours, le 9 janvier 1915, Louise Michel décédait à Marseille. Pierre de Jeyter lui a dédié cette chanson qu'il a écrite pour elle, La Vierge Rouge, document assez difficile à trouver, mais André Bonhomme, en son temps pour Radio Canu, en avait fait une interprétation que je vous propose d'entendre.
Quand ils sont venus chercher les communistes.
Erreur de lancement.
La Vierge rouge dans le cœur est disparue de cette terre. Ce cœur si noble de douceur pour l'humanité fit la guerre. contre l'abus de l'exploiteur. Ce beau génie dès son enfance guida partout le travailleur, en répétant plein de confiance, nous les braves travailleurs. Nous les mourants de la misère, ne doit-on pas unir nos cœurs vers le progrès de la lumière, d'apprendre à nos petits-enfants à devenir propagandistes, à chanter d'un air triomphant les fameuses chants socialistes. Pleines de savoir et de bonté, tu conduis l'enfant dès l'école, l'oppresseur te fit déporter, et plus tard te traita de folle. Dans ton exil enchaîné, tu supportas toute souffrance, mais l'amnistie t'a ramené. Tu t'écrias si tôt en France, pour nous les braves travailleurs, nous les mourants de la misère, ne doit-on pas unir nos cœurs vers le progrès et la lumière, d'apprendre à nos petits-enfants à devenir propagandistes, à chanter d'un air triomphant les fameux chants socialistes. Toute ta vie fut sacrifiée au droit commun et la justice, comme le Christ fut crucifié, tu as subi tout un supplice. Le peuple reconnut les droits que proclama la pauvre femme, malgré sa tendre et douce voix, elle nous dit le cœur en flamme. Pour nous les braves travailleurs, nous les mourants de la misère, ne doit-on pas unir nos cœurs vers le progrès et la lumière, d'apprendre à nos petits-enfants à devenir propagandistes, à chanter d'un air triomphant les fameux chants socialistes.
Voilà, je vous en dis pas plus sur Louise Michel, ce sera le sujet de l'émission suivante. On revient à ce Canu Info du 5 janvier 2015, premier pour l'équipe du lundi de l'année, avec un certain nombre de sujets, je ne sais pas ce qu'on aura le temps de traiter. Alors, bon, Pépère, ce matin, a fait le fanfaron pendant 2 heures sur France Inter. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Michel, t'as des impressions de... Tu l'as peut-être suivi de bout en bout?
Pas vraiment de bout en bout, non. C'était trop de me demander. L'impression en général, déjà, on voit bien que là, déjà, la fonction présidentielle est désacralisée. Hein. Est-ce que on serait permis, nous, à Radio Canu, donc, d'interviewer avec ce ton, de cette manière, à couper la parole du président de la République? J'en doute. J'étais très, très étonné, quand même, de ce procédé-là. Non, ce que j'en ai retenu, surtout, outre la vacuité un peu de ses propos, parce qu'on a absolument rien appris sur rien, hein, ni sur le bilan, ni où il allait, ni ce qu'il comptait faire, enfin... quelques saupoudrages écolos, quelques petits trucs à gauche. Il s'est posé la question de savoir si la voie qu'il avait prise était bien à gauche. Il ne sait pas encore. Hein. Il cherche. Hein. Il tâtonne.
On peut l'aider.
Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette prestation? Ben rien, c'est ça qui est assez dramatique. C'est-à-dire, on n'attend plus grand-chose de lui. Et on voit bien que la tournure social-démocrate hein, a été bien prise déjà et qu'elle est totalement assumée, qu'il n'a pas du tout l'oreille du peuple de gauche et que c'est pas du tout dans ses préoccupations de toute évidence. Ah oui, j'ai oublié aussi effectivement qu'il aimait bien la radio, il aimait bien son côté ton impertinent, j'en passe, mais il faudrait de nouveau lui envoyer notre fréquence et lui faire comprendre qu'il peut nous écouter à Paris même, à l'Élysée, hein, sur en ligne, quoi, sur le net, ça lui fera plaisir s'il cherche de la pertinence.
Robert?
J'ai pas écouté. J'en suis resté à son allocution sur à l'occasion des vœux le 31 décembre. Mais une petite remarque en passant. À sa manière, Hollande, il reprend les slogans de Sarkozy qui disait il faut seuls les paresseux ne se lèvent pas tôt le matin, et surtout à lundi matin. Il pensait aux chômeurs, Sarkozy, puis il pensait à des tas de gens. Et bien, Hollande marche dans ses pas puisque il va faire son discours à une heure telle que, effectivement, c'est le slogan traditionnel de la droite, il faut se lever tôt. Enfin bon, parenthèse fermée. Moi, je vais revenir sur ces vœux qui, effectivement, étaient un peu... Bon, comme c'était plus court, 9 minutes, donc il avait... C'était concentré, donc ça, à mon avis, je peux pas comparer les deux, puisque je n'ai pas écouté ce matin. Mais c'était sans doute un peu plus digeste. Et ce qui s'est dit lors de ses vœux, et ça pouvait apparaître, d'ailleurs c'était un commentaire général, ça pouvait être, apparaître comme dynamique, offensif, etc. Tout le contraire de ce que peut donner une discussion où finalement rien de nouveau n'apparaît dans cet échange radiophonique. J'avais noté deux mots qui étaient très déplaisants dans les vœux de Hollande. C'était quand il s'en est pris à ceux qui se scellent, qui pratiquent le dénigrement et le découragement. Bon, le découragement, ça, on est nombreux. Ça, OK, avec Hollande, le découragement, eh bien, c'est à lui de voir comment il peut effectivement faire qu'on ne soit pas découragé. Mais par contre, sur le thème du dénigrement, je crois que c'est presque une atteinte au droit du débat, de la contestation. Faut se méfier avec l'usage de mots comme ça, le dénigrement. Alors, est-ce qu'il pense à qui ? Pensait-il à qui ? Pensait-il à la gauche du PS quand il employait ce mot ? Pensait-il, je ne sais trop qui, à l'ensemble de la droite ? Oui, mais bon, en termes politiques, je crois que il y a des mots qui relèvent plus de la morale, quand on les utilise, c'est le terme dénigrement, et à ce moment-là, vaut mieux chercher d'autres termes. Bon. Voilà, moi j'ai retenu ce terme de dénigrement qui m'a fortement déplu, j'ai trouvé comme une atteinte à nos libertés. Je vais peut-être un peu loin.
Ouais. Voilà, enfin, il s'est engagé sur des choses qui coûtent rien, ça fait toujours bien, les comptes... formation et pénibilité, on accumule des points, on les utilisera plus tard, comme ça, ça fait bien dans le paysage, et pour le moment, ça ne coûte pas un centime, on passera à la caisse beaucoup plus tard, il sera plus là depuis longtemps. Ce genre de promesse électorale, c'est pas nouveau, et il n'a pas innové. Côté social, ben, les médecins, la grève des privilégiés s'amplifie, les multiples protéiforme. À un moment, c'était pour une chose. Maintenant, donc, c'est le tiers payant qui est en cause à nouveau avec une demande de MGF. Hein, de ce que le tiers payant s'élargisse aux mutuelles, c'est-à-dire que les médecins ont tellement peur de ne pas être payés par les mutuelles ou payés en retard qu'ils voudraient que la Sécu leur rembourse la part Sécu et la part mutuelle et qu'elle se débrouille après pour se faire rembourser les choses par les mutuelles. Voilà, bon, ils essaient d'amplifier la grève, de l'orienter. Aujourd'hui, c'était les chirurgiens et autres qui étaient dans la rue à Lyon, d'amplifier cette grève. Mais le fond du problème, je pense que c'est surtout les pépettes, c'est les revenus. Ils veulent voir les prestations augmenter et le gouvernement résiste un petit peu à ça. Nous, ma foi, on est pris en otage là-dedans. Il n'y a pas intérêt à être malade si on veut être soigné, que ce soit en période de grève ou autrement, dans la nouvelle médecine Afrique qu'on nous propose. D'ailleurs, médecine Afrique, il y a le sang qui, à partir du 31 janvier 2015, c'est une grave entorse à quelque chose qui existait en France. Bon. L'affaire du sang contaminé nous a montré que c'était pas exempt de risques et de dangers et même de concussions. Mais toujours est-il qu'après une affaire qui dure depuis une dizaine d'années, Octa Pharma, une boîte suisse, va pouvoir, à partir du 31 janvier, vendre le plasma SD, ils appellent ça, en France comme dans d'autres pays, puisque cette boîte a un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros dans 11 pays. Et avec cette mise en place d'un produit commercial, c'est la fin du service public des centres sanguins qui se profile à l'horizon, puisque on privatise tout et cela aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Tu avais d'autres sujets sociaux, Robert, non?
Sur le social,
politique, hein.
Bon, peut-être évoquer les décisions négatives. On aimerait plutôt évoquer des décisions positives, mais il y en a une au niveau des décisions de tribunaux, des tribunaux. Généralement, c'est les tribunaux de commerce, voire des fois des tribunaux administratifs. Par exemple, pour Barclays France, qui a fait un plan de licenciement d'une centaine de salariés, eh bien son plan social a été retoqué. Là, c'est tribunal administratif. Je ne sais pas trop pourquoi c'est le tribunal administratif. Par contre, pour les Molex et pour les Continental Amia, rien de nouveau. Et bon, les tentatives de reprise de Molex ont échoué, et puis les Continental, eh bien, ils passent à la caisse. C'est-à-dire qu'ils vont chercher leur chèque d'indemnisation, et ça concerne près de 700 personnes. Ça, c'est effectivement bon les plans sociaux, il y en a encore, évidemment. Ces semaines-ci, on n'en parle plus. On focalise sur le contenu très conservateur, pour ne pas dire plus, du projet de loi Macron qui va arriver bientôt en débat au Parlement. Et en fait, la situation globale du chômage va sans doute encore marquer une aggravation quand on connaîtra bientôt les chiffres du mois de décembre. 3,5 millions actuellement de sans-emploi répertoriés à Pôle emploi, hein, ce qui veut dire que si on ajoute les 500 000 ou sans doute plus de chômeurs qui ne sont même plus, qui ne s'inscrivent même plus à Pôle emploi, et puis tous ceux qui ont des niveaux de revenus qui les rejettent dans la catégorie des pauvres, mais ça fait beaucoup de monde. Alors tout à l'heure, j'entendais effectivement, on a parlé à juste titre, et on en parlera beaucoup dans les jours qui viennent et les semaines, de l'espoir qui peut naître en Grèce. Bon, c'est vrai que l'habileté du gouvernement socialiste français, à la différence du gouvernement, enfin à la différence des socialistes grecs, a fait attention de ne pas pousser trop loin le bouchon, c'est-à-dire de ne pas provoquer une situation d'austérité telle que ça rende la révolte quasi inévitable. On maintient en France Hollande, son discours ce matin d'ailleurs, qui effectivement est juste posé au lendemain où il y a tout le débat sur les espoirs nés et les craintes pour les gens d'argent, et puis la bureaucratie en général, née en Grèce, eh bien Hollande arrive juste derrière pour dire faire croire que finalement l'austérité, ah, il est obligé d'en faire un peu, il faut serrer la ceinture, comme dit Valls, mais ça n'est pas l'austérité, c'est autre chose. Alors voilà, c'est un peu tout cela qui alimente aujourd'hui ce début d'année en matière sociale.
Voilà, alors on parlait, oui, de la loi Macron. La loi Macron, c'est entre autres, il y a beaucoup de choses, mais la libéralisation du transport par les bus. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette mise en place par rapport à la SNCF, Michel? Ça va vraiment tailler des croupières à la SNCF ou pas?
On n'en sait rien. On les taille que des choses. Tailler des croupières, la SNCF s'y est déjà mis, hein, avec sa filiale Ideebus, qui est d'ailleurs très déficitaire. Hein, elle l'a lancé sur quelques lignes, mais en prévision justement de la libéralisation des transports par le bus en France. en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire pour que le bus soit rentable, il faut qu'il y ait des gens qui le prennent, et si j'ose dire, régulièrement. Et est-ce que ça va se faire au détriment du train ? Bon, pour les longues distances, j'en doute très fortement.
Pour les prix, si.
Mais pour les prix, mais même, j'en doute très fortement. Parce que si vous voulez faire un Paris Lyon en bus, effectivement, au niveau prix, ça risque d'être très, très intéressant. Mais aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent, et les gens l'ont intégré et ils sont prêts à payer plus, parce que vous voyez bien, tout est en flux tendu. Donc, bon, j'y crois pas réellement à ça. Quant au discours aussi, et notamment celui tenu par notre président, de nous vouloir nous faire croire que le bus, c'est plus rentable. Le sous-entendu, s'il n'y a pas de train, si un bus peut remplacer 10 personnes qui prennent leur voiture, donc c'est plus écolo, hein. C'est un discours qui tient pas, parce que les compagnies qui vont se mettre à proposer donc des transports, c'est là où ça sera rentable. Donc le problème restera entier, hors subvention, pour toute la région Centre ou Auvergne, où déjà le train est en extinction quasi totale, et s'il est remplacé par le bus, il ne sera pas pour autant rentable, et les compagnies demanderont, vous verrez, hein, qui au conseil régional, qui au ministère des Transports, une subvention pour maintenir des relations. Donc je demande à voir, mais pour l'instant c'est pas ce qui me préoccupe. Hein.
Quelques nouvelles, c'est le début d'année, hein. Vous savez, tout change au début d'année. Hein. Le SMIC augmente de 0,8%. Les smicards deviennent soudainement riches avec 9,61 € de l'heure et 1457 € bruts pour 35 heures. Le RSA augmente de 0,9%, même remarque. Les timbres, par contre, passent de 61 à 68, de 66 à 76. Ça fait plus de 10% d'augmentation. Tiens, c'est plus que le SMIC. Même le journal L'Humanité pense 13,3% d'augmentation. Personne n'a dû leur dire qu'il y a beaucoup de salariés qui n'avaient rien eu du tout en augmentation cette année. Les carburants prennent 4%, malgré qu'à l'heure qu'il est, tiens, le pétrole est tombé à 50 € le baril. Ça paraît un peu hallucinant, c'est des prix d'il y a 5-6 ans. Ça.
Sans qu'on voit les effets sur l'économie. Hein.
Oui, il faudra du temps, et puis il faudra que les baisses soient répercutées, surtout.
Oui, ne serait-ce que sur les transporteurs, etc., mais on ne voit pas vraiment l'effet concret. Quoi. Ça pourrait rebooster, mais non.
Le gaz augmente de 1,8%, c'est toujours plus que l'inflation et que le SMIC. L'électricité de 2,5%. Enfin bref, tout ce qui ne s'achète pas en Chine, et encore aujourd'hui, les vêtements chinois et tout commence à augmenter un peu plus qu'avant. 2,5, qu'est-ce que vous avez ? Les assurances, ça va de 0 à 5%. Les apprentis, eux, ils sont pas augmentés, mais le patron qui prend un apprenti, il touche 1 000 € de prime. Prenez un esclave, ça vous rapportera. Les transports, le TCL, 5%, on se sucre. La SNCF, on en a parlé, c'est du 2,6. Il paraît que Ségolène met la pression pour que on ramène ça au niveau de l'inflation. À Paris, c'est 3% pour les transports. Même la taxe télé s'y met, 133 à 136, si vous la payez. Et la taxe à 75% pour les revenus supérieurs à 1 million. Que croyez-vous qu'il arrive à les doubler ? Ben pas du tout, elle est supprimée. Ça concerne pas beaucoup de monde dans nos auditeurs, donc on va pas faire de plus grand plaisir à ceux-ci. Voilà, il est quasiment 8 heures. Ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin. Vous pourrez le retrouver sur Internet. Et puis, on souhaite à nos auditeurs une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Et puis même une bonne année, toujours à l'écoute de Radio Canu. Bonsoir.
Bonsoir.